Alain Fleischer, écrivain, cinéaste, photographe, plasticien et directeur du Frénois, Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing, vient de signer au Palais des Beaux-Arts de Lille la scénographie de l'exposition Finoglio, un maître du baroque napolitain, dont le commissaire est Alain Tapier. Françoise Abjoie l'a interviewé pour nous.
Alain Fleischer, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment s'est passée votre première rencontre avec ce peintre italien, Finoglio ?
C'était au cours de l'été dernier, donc en août 2009, à l'invitation d'Alain Tapier, directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille. Je me suis rendu dans cette petite ville des Pouilles, au sud de l'Italie, qui s'appelle Conversano, pour y découvrir, dans un château du Moyen-Âge, cet ensemble de tableaux d'après la Jérusalem délivrée, le poème de Torquato Tasso. Voilà, qui était accroché d'une façon un petit peu comme ça, sommaire, disons, comme ils avaient pu le faire, dans des salles qui n'avaient pas du tout prévues pour ce genre de peinture. Et j'ai découvert ces tableaux en même temps que je découvrais cette petite ville qui était en pleine fête du mois d'août, avec des habitants qui se costumaient le soir en croisés, en chevaliers du Moyen-Âge, qui défilaient au son des tambours, à cheval parfois. Voilà, donc c'était comme un petit souvenir de vacances. J'avais d'ailleurs une petite caméra tout à fait simple, presque une caméra d'amateur. J'ai filmé quelques images comme un carnet de notes, un carnet de voyage. Et puis quand même, donc je savais qu'il fallait que je m'intéresse à ces tableaux, qui n'étaient pas faciles à voir parce que certains étaient accrochés très en hauteur, mal éclairés. Voilà, mais quand même, je voyais bien qu'il s'agissait d'un peintre intéressant, un peintre que je ne connaissais pas du tout, un baroque napolitain, un peintre du XVIIe. Je connaissais d'autres grands peintres italiens du XVIIe, évidemment autour du Caravage, de Gentileschi, père et fille, de Tassi, etc. Mais celui-là, je ne le connaissais pas. Je pense que ça reste un peintre assez peu connu du grand public, sans doute connu quand même de certains historiens de l'art, et notamment des XVIIe-istes. Mais voilà, donc j'ai filmé ça sans trop savoir ce qui allait se passer, parce qu'à l'époque c'était un voyage un peu exploratoire. Alain Tapier était très confiant sur la suite de l'opération, mais elle n'était pas encore tout à fait réglée. Voilà, et puis après ben, je suis rentré à Rome où je passais l'été et j'ai repris mes travaux habituels de l'été, qui comme vous le savez sont de la littérature.
Vous avez repris vos travaux d'écriture. Alors, en quoi l'esthétique baroque rencontre-t-elle celle du cinéma, puisque vous, dans cette mise en scène, en quelque sorte, vous nous le montrez assez brillamment.
L'écriture, la peinture baroque, je dirais en plus une peinture d'inspiration épique. Alors, le baroque rencontre le cinéma parce que c'est une représentation du mouvement qui incite l'œil à se promener dans l'image. Aller en chercher le sujet central, puisque ce sujet central parfois peut être éclipsé par les motifs à la périphérie. C'est un art évidemment très riche, d'une représentation foisonnante, où l'espace est organisé. D'ailleurs la diagonale y joue un grand rôle, et c'est pourquoi j'ai retenu ce principe de la diagonale pour l'accrochage dans l'atrium du Palais des Beaux-Arts de Lille. Pour ce genre de raisons, le baroque est une peinture, je ne sais pas si elle a rapport au cinéma, mais en tout cas qui se laisse filmer d'une façon assez intéressante. C'est-à-dire qu'elle donne à parcourir, elle donne à voyager dans l'image, elle donne à circuler, à aller d'un personnage à un autre, à tracer des lignes. Par exemple, quand j'ai filmé ces tableaux, je me souviens, il y en a un où j'ai suivi une diagonale des mains. Simplement en passant d'une main à l'autre des différents personnages, on s'aperçoit que ces mains tracent une diagonale dans le tableau. On peut passer comme ça d'un personnage qui est absolument effondré par terre, agonisant, à un chevalier triomphant qui est dans l'autre coin de l'image, donc ça, une autre diagonale. Donc c'est une peinture qui évoque beaucoup le mouvement, qui est très riche en détails, qu'il faut aller chercher, qui est souvent aussi, pour ce qui est du baroque italien, en contraste. C'est une grande leçon aussi d'éclairage. Car il y a une science très belle de la façon d'éclairer ou de ne pas éclairer d'ailleurs les personnages, les visages, de les laisser dans l'ombre, de créer des contre-jours. Donc tout ça a aussi rapport à l'art du cinéma, qui est un art de la mise en lumière.
Puis la peinture baroque raconte aussi des histoires.
Oui, tout à fait. La peinture baroque raconte des histoires. Elle est même un peu illustrative, elle est narrative. À plus forte raison, cet ensemble de tableaux d'illustration, oui, ou de mise en image d'épisodes du grand poème épique de Torquato Tasso, la Jérusalem délivrée, qui alterne d'ailleurs des épisodes guerriers, des épisodes de sensualité, des épisodes amoureux. Enfin, bon, oui, ce sont des histoires, de belles histoires avec beaucoup de souffle.
Puis on est dans l'émotion, dans la peinture baroque comme dans le cinéma. Comment vous avez conçu donc cette présentation ? On a parlé de la diagonale, mais cette diagonale, vous l'avez brisée d'ailleurs.
En fait, c'est une diagonale en épi, je dirais. D'abord, quand la proposition m'a été faite de scénographier cet ensemble d'œuvres, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire que ne ferait pas un historien d'art traditionnel, qui sans doute aurait pu accrocher des tableaux au mur, tout simplement, comme on présente d'habitude la peinture. L'atrium du Musée des Beaux-Arts de Lille est un espace assez difficile pour la peinture. C'est un espace sans doute beaucoup plus facile pour la sculpture. Et puis par ailleurs, il y avait un autre problème, c'est que dans l'atrium, sur un des murs, il y a un immense tableau de Vicard, un des peintres importants pour le musée, puisque la collection du musée est en partie la collection de Vicard, mais ce tableau est inamovible. Donc il aurait forcément été en situation de conflit avec la présentation des tableaux de Finoglio. Donc il s'agissait de trouver une solution élégante pour éliminer ce tableau sans le décrocher. Et puis voilà, j'ai eu envie de présenter ces tableaux d'une façon un peu forte et autoritaire, en occupant un espace que n'occupe pas d'habitude la peinture. En traçant cette diagonale qui traverse tout l'atrium, d'un coin au coin opposé, et idée supplémentaire, d'alterner dans cette diagonale un tableau de face et un tableau de dos, donc un recto et un verso, de façon d'une part à rythmer cette succession, de ne pas simplement aligner les tableaux les uns côté des autres, à créer un rythme, à créer une énigme, une attente, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, à créer aussi une relation, je dirais, avec l'art contemporain. Car le revers des tableaux, ça pourrait être une œuvre d'un artiste contemporain, ça pourrait être une œuvre conceptuelle, ça pourrait être une œuvre abstraite. On voit une toile de dos avec un châssis, des structures en métal, puisque ces tableaux sont renforcés par de belles structures en aluminium.
Ça pourrait être un support surface.
Voilà, ça pourrait être un support surface. Donc ça mettait en dialogue la peinture du XVIIe avec quelque chose qui peut ressembler à des œuvres d'art contemporain. Voilà, donc alternance. Cette alternance, elle produisait un rythme, elle produisait un sens de lecture aussi. Cette diagonale, elle pousse le visiteur à avancer, à aller vers le bout de la diagonale, et ensuite à revenir au revers, hein, donc à se laisser porter vers le point de départ, vers le retour, mais au revers des tableaux, donc en voyant l'envers de tableau dont on a d'abord vu l'endroit, et vice-versa. Donc ça produit un mouvement. Voilà, comme la peinture baroque elle-même, ça conduit à passer d'un tableau à un autre, à les regarder autrement qu'on regarde des tableaux. En général, bon, on se plante devant un tableau en essayant de trouver la meilleure position possible, un tableau qui est accroché à un mur. Là, on circule, on passe d'un tableau à un autre, on subit, enfin en tout cas on suit cette alternance des rectos et des versos. Et puis, se produit un effet, parce que cette diagonale elle est légèrement décalée. Hein, les tableaux ne sont pas mis bout à bout. Chaque tableau est légèrement décalé par rapport à celui qui suit et par rapport à celui qui précède. Ce qui, sous certains angles, produit un effet de feuilletage. Et là, on est assez proche des pages d'un livre. Des pages d'un livre qu'on feuilletterait comme ça, un peu comme un flipbook. Vous savez ce qu'on appelle en langage savant un folioscope. Ces livres qu'on manipule du pouce en faisant défiler les pages. Il y a cet effet de quelque chose qui se feuillette. Et bon, tout ça me plaisait beaucoup. J'avais deux ou trois propositions quand je suis venu au musée pour faire part de mes idées. Tout était évidemment des propositions un petit peu inhabituelles par rapport à un accrochage traditionnel, parce que pour un accrochage traditionnel, on n'aurait pas eu besoin de moi, enfin d'autres personnes n'auraient pu le concevoir. Donc je me suis dit, on attend de moi sûrement un geste un peu singulier. Et des trois propositions que j'ai faites, celle-ci que je gardais pour la fin car elle était ma favorite, a tout de suite plu à Alain Tapier et à ses collaborateurs et collaboratrices.
Un mot sur le film qui est présenté comme un 11e tableau.
Il est présenté en effet dans un cadre. Hein, on a trouvé un grand cadre vide dans les réserves du musée et on a pu couvrir le fameux grand tableau de Vicard d'un tissu blanc, donc qui le cache sans l'endommager et sans avoir à le démonter. Et sur cet écran blanc, on projette un film qui est vu à travers l'ouverture d'un cadre vide. Donc voilà, c'est un film encadré comme un tableau, je dirais, recadré par un tableau. Ce film est très simple, c'est ce petit film de voyage que j'ai fait, ce carnet de notes que j'ai fait lors de mon passage à Conversano au mois d'août de l'année dernière, et je ne savais pas du tout quel usage j'en ferais, c'était filmé d'une façon très simple, j'étais même pas sûr que ce soit exploitable. Quand Alain Tapie m'a dit « Ah, ça serait quand même bien que tu évoques le lieu où est cet ensemble d'œuvres », j'ai regardé, en effet, des images étaient utilisables, où on voit alors le château, la petite ville de Conversano, d'abord son vieux quartier, la partie moderne est moins intéressante, mais le vieux Conversano est une petite ville typique du sud de l'Italie, avec des ruelles étroites, bon, un chat qui dort, un monsieur qui épluche des amandes. Et puis on voit aussi les villageois habillés pour la fête annuelle, où ils se costument en personnage du Moyen-Âge et en chevalier des croisades. Et puis on voit quand même l'ensemble d'œuvres dans leur lieu d'accrochage permanent, qui est ce château de Conversano, un château médiéval avec de belles tours, des étendards, etc. Pour qu'on se rende compte de quelle est leur demeure habituelle. Voilà.
Alain Fléchère, merci.
C'était Alain Fléchère au micro de Françoise Objoie à propos de l'exposition Finoglio, ouverte jusqu'au 12 juillet 2010 au Palais des Beaux-Arts de Lille. Une émission réalisée par René Lavergne de Radio Campus dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.